La dernière fois avec Billy, donc, nous avons vu l'origine de la chute avec Adam et Ève, et donc le problème lié au manque de confiance, puisque le diable, sous la forme du serpent, avait réussi à initier le doute dans la confiance qu'ils avaient dans le Seigneur, et qu'ils auraient dû garder d'ailleurs, et ce qui les a conduits à pécher, en voulant tester par eux-mêmes. Et donc, en défiant ce que le Seigneur leur avait dit de ne pas faire. Alors, toujours donc sur la base du péché, nous allons poursuivre. Et pour débuter, je voudrais faire entendre une petite chansonnette chrétienne destinée aux enfants, mais destiné également à nous, puisque nous sommes tous des enfants, puisque Jésus-Christ a dit qu'il fallait être comme un enfant pour accéder au royaume de Dieu. Certains doivent connaître, bien sûr. Alors, c'est une version qui est pas la meilleure. Chose. On parle de Jésus-Christ, on parle du cœur, on parle d'une tache sur le cœur provoquée par le péché. Et donc, nous avons un verset dans 1 Jean, premier épître de Jean, qui se trouve avant Apocalypse, avant Jude. Jean, verset 6, au chapitre donc 1, verset 6. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, c'est-à-dire avec Jésus-Christ, et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous n'agissons pas selon la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres. Et le sang de son Fils Jésus-Christ nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est pas en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle, Jésus-Christ est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons point de péché, nous faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Donc dans le cadre, de l'exercice du péché, bien que ce ne soit pas une activité à laquelle on doit s'adonner, bien au contraire, on doit plutôt la fuir, il existe un avant et un après. Avant la conversion, avant la repentance, et puis après. Alors avant la repentance, ça se comprend, puisque nous sommes les enfants, si je puis dire, spirituels d'Adam. Génétiquement, le péché s'est malheureusement transmis dans nos gènes, et on le voit très bien avec les petits-enfants, quand ils sont en bas âge, ceux-ci n'ont aucune idée de ce qui est le bien, de ce qui est le mal. Et ils pratiquent plus le mal que le bien. Et c'est le rôle de l'éducation, justement, pour les orienter vers le bien. Donc on voit que c'est un comportement, c'est une caractéristique inhérente, malheureusement, à l'espèce humaine d'aujourd'hui et d'hier. Et justement, puisque Dieu nous a créés parce qu'il voulait établir une relation avec nous et créer une famille avec nous, avec des liens, il souhaite que cette situation de coupure qui a été provoquée par Adam se rétablisse en se manifestant par la prédication de sa parole et par le rayonnement des églises dans le monde pour justement propager la bonne nouvelle que Dieu existe et qu'il souhaite la réconciliation avec les hommes. Réconciliation et coupure qui n'est pas de son fait, qui est celle de l'homme, Mais donc, comme toujours, c'est Dieu qui prend les initiatives et donc qui avance vers l'homme. Donc, dans l'avant, dans le monde, nous avons un descriptif de Romains chapitre 3, versets 10 à 20. Romains chapitre 3, 10 à 20. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gosier est un sépulcre ouvert, ils se servent de leur langue pour tromper, ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. Leur bouche est pleine de malédictions et d'amertume. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. La destruction et le malheur sont sur la route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Et aujourd'hui, nous constatons dans le monde que le monde, malheureusement, est rempli de guerres, de tueries, de désordres sociaux, d'injustices. Mais ce qui se passe dans le monde, ce n'est pas que dans le monde. Nous devons également nous-mêmes voir à notre niveau, chacun d'entre nous, ce que nous sommes, ce que nous faisons. Alors, dans Actes notamment, vous savez que Pierre, au tout début, a prêché bien sûr Jésus-Christ. Et dans Actes chapitre 2, versets 37 à 41... Quand il a prêché à des juifs qui venaient donc pour la Pâque à Jérusalem sur le fait qu'ils avaient crucifié le Seigneur dans leur ignorance, dans leur rébellion, ayant entendu ces choses, donc les juifs, ils furent touchés de compunction en leur cœur et dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous ? » Et Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour la rémission de ses péchés. » Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse était faite à vous et à vos enfants, et à tous ceux qui sont éloignés, autant que le Seigneur notre Dieu en appellera. Donc, qu'on soit juif ou non-juif, gentil, grâce à l'écoute de la parole, et à un cœur disposé à accepter cette parole, on peut donc être amené à la repentance, en prenant conscience que donc nous sommes pécheurs, notamment vis-à-vis de ce Dieu qui existe et qui nous a créés. Donc ça, c'est la phase, je dirais, avant. Et après, que se passe-t-il ? Est-ce que quand on se repent, on se convertit, on devient donc fils de Dieu, fille de Dieu, on est croyant ? Est-ce qu'on devient tout d'un coup sans péché ? Force est de constater que ce n'est pas le cas. Malheureusement, il nous arrive encore, et certainement, malheureusement, il nous arrivera encore des péchés. Mais le contexte est différent cette fois-ci, parce que lorsque l'on repent, on convertit, on reçoit le Saint-Esprit de Dieu, qui permet cette relation nouvelle avec le Dieu vivant, par Jésus-Christ, qui n'était pas possible d'avoir auparavant, puisqu'il y avait une coupure totale, spirituelle et même physique. Même si maintenant également physiquement on n'a pas de contact avec Jésus-Christ, spirituellement on est en lien direct avec lui. Alors, sur cet après, je vous partage donc un passage de Romains. Romains chapitre 7, versets 14 à 25. Donc là, on est dans un contexte où on était en dehors de la relation avec Jésus, avec Dieu, on l'est maintenant grâce à la foi et à la repentance. Et donc, on lit ceci. « En effet, nous savons que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché, car je n'approuve point ce que je fais, et je ne fais point ce que je veux, mais je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, si ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. » Car je sais que le bien n'habite point en moi, c'est-à-dire dans ma chair, parce que j'ai la volonté de faire le bien, mais je ne parviens pas à l'accomplir. Car je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais le mal que je ne veux pas faire. Que si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc cette loi en moi, c'est que quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois une autre loi dans mes membres qui combat contre la loi de mon esprit et qui me rend captif sous la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable homme que je suis, qui me délivrera de ce fardeau de mort? Je rends grâce à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Je suis donc assujetti moi-même par l'esprit à la loi de Dieu, mais par la chair à la loi du péché. Alors on pourrait croire que on est condamné à vivre cette ambivalence, cette bataille constante entre d'un côté notre chair, qui elle est sous l'emprise et esclave du péché, et donc l'esprit qui est en nous de Dieu, en permanence. Mais au chapitre suivant, chapitre 8, les trois premiers versets, il nous est dit « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit, parce que la loi de l'esprit de vie, qui est en Jésus-Christ, m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car ce qui était impossible à la loi, parce qu'elle était affaiblie par la chair, Dieu l'a fait, envoyant son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, et pour le péché, il a condamné le péché dans la chair. » Alors, je vais vous faire une petite expérience, toute simple. Voilà, ça, avant de venir au Seigneur, c'est ce que nous sommes tous. Ce qui change, c'est peut-être la couleur. Peut-être que pour certains, elle sera un peu plus claire. Mais pour Dieu, ça ne fait aucune différence. Qu'elle soit noire ou un peu plus claire, la relation est coupée et on ne peut pas être admis en la présence de Dieu. Et on peut avoir une attitude religieuse, on peut faire plein de bonnes œuvres, ça n'empêchera pas que l'eau restera toujours noire. Donc, quand on vient au Seigneur Jésus-Christ, on commence une nouvelle vie. La parole le dit, nous sommes de nouvelles créatures en lui. Et donc, quand on commence cette relation, avec d'abord le Saint-Esprit, on commence à recevoir une eau nouvelle. Et au fur et à mesure qu'on vit cette vie avec le Seigneur, qu'on lit la parole, qu'on la comprend, qu'on cherche à lui plaire, qu'on cherche à avoir cette relation privilégiée et personnelle avec Jésus-Christ, petit à petit en nous, l'eau s'éclaircit. Au fur et à mesure que l'on vit dans l'Église, au fur et à mesure qu'on peut donner des témoignages auprès de ses proches pour dire ce que Dieu a fait de bien dans notre vie, petit à petit, ces actions-là remplacent cette eau saumâtre. Et ceci peut prendre toute une vie terrestre, jusqu'à ce que tout devienne clair. Mais comment en arriver là? Parce que dans toute la vie de chacun, il y aura des hauts et des bas. Il y aura des moments où, malheureusement, parfois, on va être tenté. À ce propos, Jacques nous parle de la tentation. Donc Jacques, chapitre 1, c'est avant justement 1 Pierre et 1 Jean. Jacques, chapitre 1, versets 12 à 15. Heureux est l'homme qui endure la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Que personne ne dise, lorsqu'il est tenté, c'est Dieu qui me tente, car Dieu ne peut être tenté par le mal, et lui-même ne tente personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Et après que la convoitise a conçu, elle enfante le péché, et le péché étant consommé, engendre la mort. Donc il est clair que dans la vie, comme le Seigneur Jésus d'ailleurs, on a des tentations. Mais, premièrement, il est écrit que le Seigneur ne nous mettra pas les tentations qui soient au-delà de nos forces. Et, accroché au Seigneur, je dirais accroché à ses basques, en disant fermement, on peut vaincre ces tentations. Ou, malheureusement, parfois y succomber. Et à ce propos, justement, de la tentation et de la résistance, nous avons dans 1 Corinthiens, chapitre 10, pardon. 1 Corinthiens, chapitre 10. Verset 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été une tentation humaine. Or, Dieu est fidèle Il ne permettra point que vous soyez tenté au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il vous en donnera aussi l'issue, afin que vous puissiez la supporter. Dans Galates 5, 16, Galates chapitre 5, verset 16, « Je dis donc, marchez selon l'esprit et n'accomplissez point les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à l'esprit, et l'esprit en a de contraires à la chair. Et ces deux choses sont opposées l'une à l'autre, de telle sorte que vous ne faites point les choses que vous voudriez. Que si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. » Donc voilà, les clés qui nous sont données, c'est de vivre selon l'Esprit et de rester en communion avec le Saint-Esprit et avec Jésus-Christ. Et d'ailleurs, Jésus-Christ lui-même avait dit, la chair ne sert de rien, c'est l'Esprit qui vivifie. Donc on voit que dans ce travail de régénérescence, c'est un processus d'éducation qui prend du temps, suivant les personnes. Et ça, il n'y a pas à en juger, il n'y a pas de jugement de valeur. Chacun a des cycles d'apprentissage, des cycles de maturité. Mais l'important, c'est d'en être conscient et d'avoir l'envie justement de pouvoir s'améliorer et de répondre justement à la volonté du Seigneur, la volonté que lui souhaite exercer dans nos vies. Donc on voit que la vie chrétienne est une lutte en soi entre notre chair et le Saint-Esprit. Et que parfois, dans les moments les plus inattendus, on a parfois des mauvais esprits. On a dit, tiens, je ne connaissais pas cet aspect de ma personne. Tout d'un coup, face à une situation, on peut être amené à se découvrir des choses qu'on pouvait ignorer soi-même de soi et qui ne sont pas forcément bonnes. Mais voilà, on a un Dieu qui nous permet d'aller auprès de lui. Parce que, on a un proverbe, 28, 13, ne cherchez pas, « Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. » Donc on voit que, dans notamment la vie chrétienne, il y a un processus donc qui continue, qui un processus de sanctification, et que, si malheureusement on pêche, eh bien, c'est pas la fin du monde, parce que justement, on a un Dieu compatissant, un Dieu miséricordieux, un avocat auprès du Seigneur, auprès de Dieu, qui, auprès de qui on peut donc confesser nos péchés. On peut lui étaler notre cœur, lui faire part de nos luttes, lui faire part de nos défaites. Il le sait, il est au courant. Mais il prend plaisir à ce qu'on puisse s'ouvrir et lui raconter nos difficultés. Parce que c'est ce qu'il veut, de tout temps, c'est ce qu'il veut. Être avec chacun d'entre nous, au contact, comme on dit, dans la vie de tous les jours. Et donc, bien sûr, il y a plaisir à voir qu'on se comporte tel qu'on le souhaite. Bien sûr, il éprouve la tristesse quand on a des moments de faillite. Mais on a toujours cette possibilité de venir à lui pour confesser nos péchés, pour ouvrir notre cœur. À condition, bien sûr, de vouloir le faire. Mais quand on a l'Esprit Saint en soi, ce sont des choses qui ne sont pas difficiles. Autant avant, quand on est dans le monde, c'est des choses qui n'est pas pensable ou réalisable. Et en plus, il y a l'orgueil et la rébellion qui empêchent ce genre de choses. Mais là, grâce à la conversion, on s'affranchit de la rébellion, on s'affranchit de l'orgueil, bien qu'on puisse encore en avoir, et on peut donc s'ouvrir à notre Seigneur pour lui faire part de nos transgressions. Alors tout ceci, bien sûr, comme je disais tout à l'heure, dans le cadre du changement de vie, pourra se faire petit à petit, grâce à la vie d'église entre frères et sœurs, grâce à la lecture de la parole pour connaître la volonté du Seigneur, grâce à la louange, au chant que nous faisons, grâce également au témoignage que nous porterons dans nos entourages, pour témoigner de ce que peut faire le Seigneur pour nous et pour ceux qu'on voudrait voir sauvés. Donc, quoi qu'il arrive, ne jamais douter que le Seigneur est prêt à écouter nos transgressions, nos confessions et notre demande de pardon. Lui-même a dit une chose très importante à Pierre à propos, lorsque celui-ci demandait au Seigneur, « Seigneur, si mon frère pêche contre moi, devrais-je lui pardonner 7 fois ?» Et Jésus-Christ lui répond, « Ce ne sera pas 7 fois que tu devras lui pardonner, mais 70 fois 7 fois. » Alors, si on fait 70 par 7, on trouve le chiffre. Ça fait un chiffre fini. Néanmoins, le 7 est un numéro assez particulier. C'est un chiffre parfait. Et en fait, 7 fois 70 fois, c'est à l'infini, en fait. À chaque fois qu'un frère ou une sœur pêche contre un autre frère et sœur et que celui-ci prend conscience de sa transgression et demande pardon avec sincérité, eh bien, on a l'obligation de lui pardonner. De la même manière que si nous péchons, nous serons heureux que ce frère ou cette sœur nous pardonne la transgression que nous aurons commise. Et en cela, on le trouve notamment dans notre Père, lorsqu'il était dit, nous disons, Père, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Donc on voit bien que c'est une attente du Seigneur que d'avoir cette miséricorde et cette mansuétude envers nos frères et sœurs, mais quelque part aussi, parfois, envers également les gens de l'extérieur, puisque quand Jésus-Christ est sur la croix, il a dit à son Père, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et pourtant, les gens qui étaient en train de le crucifier n'étaient pas en train de lui demander « Pardonne-nous de t'avoir crucifié. » Mais pourtant, par anticipation, Jésus-Christ demandait pardon à son Père pour ces personnes-là qui étaient en train de lui faire du mal. Donc tout ceci peut s'accomplir que sur la base d'un dialogue et d'une confiance avec Jésus-Christ, et avec bien sûr toujours le souhait de se repentir. Et Jésus-Christ dit également dans ce cadre-là, dans l'Apocalypse 3:19, ne cherchez pas, je vous le cite, Jésus dit « Je reprends et châtie tous ceux que j'aime. » Alors, quelque part dans la Bible, il dit qu'il n'est jamais agréable d'être châtié, puni, mais en général, c'est pour le bien de la personne. Et là, Jésus-Christ le dit également. « Je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. » Donc, on est assuré de son amour. Parfois, peut-être qu'il y aura un petit moment difficile, douloureux, mais on sait que Jésus nous aime et que c'est pour notre bien qu'il veut nous élever, on va dire, à son niveau de spirituel. Alors, je vous lis encore un petit passage dans Romains 5, versets 8 à 10. Mais Dieu fait éclater son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Étant donc maintenant justifiés par son sang, à plus forte raison serons-nous sauvés par lui de la colère de Dieu. Et à plus forte raison, si nous confessons nos péchés à lui, en tant que chrétiens, ils nous seront pardonnés du moment qu'on se repent avec sincérité. Alors, pour conclure, parce que j'étais quand même assez synthétique, on pourrait croire qu'en devenant chrétien, on s'améliore, et c'est vrai, et c'est normal, puisque la relation avec Jésus-Christ ne peut que nous amener à nous améliorer sur le plan humain. Et donc, on pourrait parfois avoir tendance à oublier ce que nous étions dans le passé. On va dire de nous couper de nos racines. Et donc, il est toujours bon de rester humble, quelles que soient les circonstances, et surtout vis-à-vis du péché, et surtout vis-à-vis du péché des autres. Parce qu'il est toujours plus facile de voir les erreurs, ou les bêtises, ou les péchés des autres, que de voir ses propres bêtises et stupidités. Et dans Romains chapitre 15, versets 1 à 7... Il nous est dit la chose suivante. Nous devons donc, nous qui sommes forts, alors forts, ça peut être passager, parce que parfois on n'est pas toujours fort tout le temps. Nous qui sommes forts, supporter les infirmités des faibles et ne pas nous complaire en nous-mêmes. que chacun de nous complaise plutôt à son prochain dans le bien pour l'édification. Car aussi Christ ne s'est point complu en lui-même, mais selon qu'il est écrit, les outrages de ceux qui t'outragent sont tombés sur moi. Or, tout ce qui a été écrit autrefois a été écrit pour notre instruction, afin que par la patience et la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Alors là, c'est vrai qu'il parle du salut, mais ça parle aussi de la consolation, et la consolation aussi de se consoler entre nous également. Et que le Dieu de patience et de consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments entre vous selon Jésus-Christ, afin que d'un même cœur et d'une même bouche, vous glorifiez le Dieu qui est le Père de votre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi accueillez-vous les uns les autres comme Christ nous a accueillis pour la gloire de Dieu. Et même quand nous péchons et que nous nous repentons, nous allons vers lui, Christ nous accueille aussi à ce moment-là pour nous écouter et pour nous pardonner. Alors je terminerai par un passage, celui de Galates, chapitre 6, versets 1 à 5. Galates chapitre 6, versets 1 à 5. Frères et sœurs, si un homme a été surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituel, redressez-le dans un esprit de douceur. Prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. Portez les fardeaux les uns des autres et accomplissez ainsi la loi de Christ. Car si quelqu'un pense être quelque chose, qu'il ne soit rien, il se séduit lui-même. Mais que chacun éprouve ses actions, et alors il aura sujet de se glorifier, pour lui-même seulement, et non par rapport aux autres. Car chacun portera son propre fardeau. Voilà, donc c'est clair. De près ou de loin, à un moment donné, nous sommes tous amenés, malheureusement, à pécher. Mais ça fait partie du processus de purification que nous menons en compagnie du Seigneur. Et donc, il nous faut être humbles vis-à-vis de nous-mêmes et vis-à-vis des autres pour pouvoir croître et ainsi nous améliorer et nous édifier les uns les autres et nous supporter, nous donner la main, nous encourager mutuellement afin que nous soyons heureux ensemble, tout simplement. Merci de votre écoute. Merci.